Vous êtes sur RTL.
18h33.
Et c'est l'heure, 18h33, à laquelle s'ouvre l'œil de la directrice de Marianne, Natacha Polony. L'œil de Natacha. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Parmi les sujets mis en avant par Nicolas Hulot quand il est arrivé au ministère de l'Environnement, il y avait la question de l'alimentation. Une loi a été votée depuis. Alors ça y est, les paysans vivent de leur travail, les consommateurs payent le juste prix. C'est évidemment un peu provoquant. Voilà.
À votre avis. Bon, ce qu'il faut, c'est rappeler l'enchaînement des faits. Quand Nicolas Hulot accepte la proposition d'Emmanuel Macron d'entrer au gouvernement, il a quelques projets concrets, donc histoire de ne pas faire potiche, et entre autres, il a cette idée qui est révolutionnaire d'état généraux de l'alimentation, histoire d'enfin s'intéresser à l'acte alimentaire, au risque d'obésité bien sûr, mais aussi au suicide de paysans, à la destruction de la biodiversité. Le principe, c'est on met autour de la table tous les acteurs de la chaîne, les paysans, les producteurs, l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, et surtout on paie les aliments à leur juste prix, ce qui permet de les produire dans des conditions correctes, et pour ça on interdit entre autres les reventes à perte. On empêche la grande distribution de pratiquer l'abus de position dominante et surtout, on fait en sorte qu'enfin, ce ne soient plus les acheteurs, les distributeurs qui fixent les prix, mais bien les vendeurs. Oui, parce que c'est totalement dingue, mais c'était ça avant. Alors figurez-vous qu'au départ, tout le monde a joué le jeu. C'était beau, c'était peut-être trop beau. Bon, il y avait quand même, dès le début, le ministère de l'Agriculture qui avait discrètement essayé d'évincer le ministère de l'Environnement. Le 21 décembre 2017, à la fin de ces états généraux, Nicolas Hulot boycotte la clôture des états généraux en estimant que le compte n'y est pas. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, ça ne s'est pas passé si bien que ça. Et puis surtout, depuis, septembre 2018, arrivée de la loi Egalim, là où il était écrit on doit faire ça, il n'y a plus que on devrait faire ça. Et en fait, toutes les mesures contraignantes, notamment pour la grande distribution, ont disparu et la situation est pire que jamais. Alors, j'ai une question, Nicolas Hulot. Quand vous avez démissionné de votre ministère, vous avez dénoncé les lobbies. Qui déroule le tapis rouge à ces lobbies ?
C'est peut-être pas aussi simpliste que ça. D'abord, il y a une espèce de conservatisme. Un peu crasse. Combien de fois j'ai entendu, on a toujours fait comme ça, on peut pas faire autrement. Alors, c'est pas du lobbying, bon, mais c'est une force d'inertie qui est quand même considérable. Après, ce qui peut se passer dans le dos de l'exécutif, moi je suis pas au courant de tout, mais je veux dire que vous avez quand même des secteurs économiques qui peuvent, sur un claquement de doigts, vous paralyser la France. Chacun verra à qui je fais référence. Mmh. Et c'est vrai que pour l'exécutif, c'est plutôt assez intimidant. Mais c'est d'autant plus tragique que l'on cède à cette pression-là, parce que ça n'est pas une fatalité. On peut prendre en compte la désespérance du milieu agricole, qui est réel, bien entendu, sortir de cette confrontation stérile de ce que certains appellent l'agribashing. Parce que l'argent est là. Mais sauf si on le conditionnait et on le fléchait pour cette mutation progressive du modèle agricole et du modèle alimentaire, on pourrait passer d'une agriculture intensive en pesticides à une agriculture intensive en emploi. La raison pour laquelle j'ai boycotté, et on m'en a fait reproche à l'époque, la restitution des états généraux de l'alimentation, on a fait venir des hommes et des femmes, et souvent des gens qui ont abandonné leur exploitation pendant ces jours où ils venaient à Paris. Ils ont fait une liste de préconisations dans un atelier qui avait été piloté par le député Dominique Potier. Aucune de ces préconisations n'a été reprise. On demandait, et ce n'était pas des choses révolutionnaires, des distances évidemment entre les zones de d'épandage des pesticides, des habitations et les écoles. Un jour par semaine dans les cantines scolaires où on n'aurait pas mangé de viande. Enfin, c'était des choses quand même de bon sens.
Nicolas Hulot, juste le problème, c'est que quand il y a un paysan ou une PME qui veut justement opérer cette transition, qui veut faire de la qualité, vous avez notamment la grande distribution qui lui dit mais c'est pas grave, on ira se fournir ailleurs parce que vous êtes trop cher. Le problème, vous le disiez tout à l'heure, il est systémique. C'est le fait qu'on veuille améliorer les choses dans un cadre qui est ouvert avec une concurrence généralisée, non ?
On est bien d'accord, mais imaginez qu'on ait utilisé notamment le levier de la restauration collective. Les milliards de repas qui sont distribués chaque année dans les cantines à la fois privées comme dans les cantines publiques. Et qu'à terme, quasiment 100% de cette restauration collective s'alimente sur des circuits courts et des proximités que vous pouvez mettre dans le code, dans le cahier des charges. Là, vous allez totalement créer le marché et faire en sorte que, à terme, très rapidement, les aliments issus d'une production de qualité soient concurrentiels avec ceux qui sont issus d'une agriculture conventionnelle.
Alors, on en arrive aux questions des auditeurs. Merci beaucoup, Natacha. Beaucoup de questions, à commencer par Caroline, qui est agent immobilier, qui nous appelle de Lille. Bonsoir, Caroline. Nicolas Hulot, vos écoutes. Je crois que votre question porte sur les lobbies, précisément.
Bah, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Hulot.
Bonsoir.
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que j'ai des enfants comme vous qui sont assez jeunes et qui sont concernés. Et je me demande si ces lobbies, finalement, qui gèrent quand même plus ou moins les gros industriels ou même quand on voit, par exemple, pour les batteries, au niveau des batteries électriques, on sait pertinemment que c'est tout sauf écologique et on sait pertinemment que dans 10 ans, il n'y a pas d'avenir pour ça.
Pourquoi? Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît?
Ben, je voulais savoir pourquoi on ne les met pas au pas, ces lobbies.
Alors, c'est jamais aussi simple que ça. Il y a souvent un chantage à l'emploi, c'est-à-dire, je sais pas, vous fermez une centrale thermique, ben on va vous dire, ok, on va aller l'ouvrir ailleurs, ou voilà. Bon. Est-ce que